C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chaque jour, nous consommons Internet sans même y réfléchir grâce à nos forfaits illimités, téléchargements, streaming, échange de données, nous ne comptons pas nos clics. Pourtant, si nos données sont virtuelles, l'énergie que nous consommons, elle, est bien réelle. Nos mails, nos photos, les informations de nos profils Facebook, nos tweets, tout cela est stocké dans des data centers, sorte d'usine d'Internet, faite de millions d'ordinateurs qui, pour fonctionner, ont besoin d'électricité. Chaque heure, plus de 10 milliards de mails sont échangés à travers le monde, c'est l'équivalent énergétique de 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Les plus gros usagers sont sans doute les adolescents qui, entre les ordinateurs, les tablettes et surtout les smartphones, passent de plus en plus de temps sur la toile. Caroline Langlois a rencontré trois collégiens dans un bistrot du 18e arrondissement à Paris, en compagnie de Philippe Recoupé, président du forum Athéna et spécialiste de la question de l'écologie d'Internet, afin de discuter de leurs usages du web et de leurs impacts.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Alexandre.
Et tu as quel âge ?
9 ans.
Je m'appelle Yunmila et j'ai 14 ans.
Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 15 ans et j'étudie au collège Yvonne Le Tac.
Bonjour, je suis Philippe Recoupé, je suis président d'une association qui s'appelle Forum Athéna, qui s'occupe du monde du numérique, de l'Internet, et je m'intéresse au green depuis très longtemps, et donc j'ai un peu de recul sur comment ça se passe et ce qui peut-être ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore.
Est-ce que vous pouvez expliquer à Lumila, Élise et Alexandre ce que c'est que le green ?
Le green, c'est le vert, donc les aspects écologiques, c'est-à-dire c'est s'interroger sur... Quand on utilise par exemple Internet et qu'on va sur un site, qu'est-ce qui se passe au niveau de la consommation électrique, au niveau de la fabrication de l'ensemble des appareils qui permettent d'avoir ce service, d'aller consulter cette page, et puis de la manière dont les informations se transportent et arrivent jusqu'à ce qu'elles s'affichent.
Est-ce que vous pensez qu'Internet ça pollue déjà ?
Bah, si c'est par rapport à la pollution que produit l'électricité consommée par les ordinateurs, ça pollue pas où on est, ça pollue plus loin. C'est compliqué. Voilà.
Ouais. Mais après, ça peut aussi être... J'étais en fait, c'était soit ça, soit c'était la pollution, comme tous les virus, tous les genres de choses, en fait, qu'on ouvre inconsciemment quand on est sur tel ou tel site. Donc, une espèce de pollution, en fait, de l'ordinateur.
Par exemple, les courriers indésirables, les spams, les pop-up, les choses comme ça.
Ouais, voilà.
C'est ça que tu penses?
Ouais.
Les pubs aussi. Ça pollue l'Internet.
C'est très intéressant. Vous avez tout à fait raison, c'est tout ça. C'est pas seulement la consommation électrique. C'est vrai que quand on affiche une pub et qu'on n'a pas envie de cette pub, elle consomme de l'électricité. C'est une consommation d'électricité complètement gaspillée, inutile, indésirable.
Alors, je vous ai ramené mon ordinateur. Et aujourd'hui, on va l'utiliser. On est dans un café qui est connecté parce que maintenant, pratiquement... Tous les cafés ont une connexion Wi-Fi qui permettent de rester connecté même quand on va boire son petit diabolomante.
Non, ça devrait être bon. Ouais, voilà.
Racontez-moi, c'est quoi votre consommation d'Internet ? À quel moment dans la journée vous vous connectez ? Sur quoi ? Sur des tablettes, sur des ordinateurs, sur vos téléphones ? Élise, on va commencer par toi.
Moi, souvent, je me connecte l'après-midi quand je rentre du collège. Souvent, quand je vais sur l'ordinateur, c'est pour regarder des vidéos sur YouTube.
Tu dirais que tu te connectes combien de temps par jour sur Internet ?
Ça dépend si j'ai école ou pas, en fait.
Je suis malheureusement un peu le cliché de l'adolescente qui reste tout le temps sur Internet. Parce qu'en fait, j'ai un iPod. Du coup, le matin, dès que je me réveille, c'est limite, je suis un peu dessus. Parce que je suis de fille qui est en même temps sur un peu tous les réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, Snapchat. Donc, comme je viens des comptes, il faut que j'aille les vérifier, que je vois si on a aimé des trucs, tout ça. Donc, je passe un peu ma vie dessus. Et du coup, au bas mot, je dirais que je passe, je sais pas, 5 heures quand j'ai école et 7 heures quand j'ai pas école. C'est une horreur.
Qu'est-ce que vous regardez comme vidéo, les filles, en ce moment ? Allez, montrez-moi un peu les vidéos à la mode sur YouTube ou les derniers.
Presque tout le temps, on regarde des vidéos sur YouTube. Il y a Cyprien, le plus grand, je crois, YouTuber de France.
Après ma vidéo sur les yeux et la technologie, j'ai eu plein de yeux qui m'ont fait...
Bien vu la vidéo.
Traduction.
Va bien te faire fils de p***.
Et je me suis dit qu'en fait, les jeunes et la technologie, c'est bien con aussi.
Ah bah si. D'ailleurs, ça commence super tôt. Les gamins veulent tous un téléphone portable.
Et l'argument imbattable qu'on sort pour en avoir un, c'est...
Mais comme ça, je pourrais t'appeler si je termine plus tôt. Ou si j'ai un problème.
Bon, d'accord, t'as gagné.
Yes. À moi quand je décroche, Snapchat, Instagram.
Bon, tiens, lâche un com. Mets-toi bien.
Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer le chemin que fait la vidéo de Cyprien pour arriver dans l'ordinateur ou dans le smartphone d'Élise, Lumia ou Alexandre?
Donc il y a un enregistrement vidéo qui est fait et elle est mise dans des formats différents pour pouvoir s'adapter au terminal qui va vouloir la lire. Donc on va avoir la vidéo transformée en un petit format pour les smartphones, en un moyen format pour les tablettes, en un grand format pour la télévision. Et après, quand on clique, il y a toute une technologie, on va dire web, qui se met en place. Évidemment, une consommation du côté du serveur et du côté du terminal pour arriver à faire ça. J'ai oublié de dire décompresser la vidéo. Elle est compressée avant d'être enregistrée et elle est décompressée après. Et ces compressions et ces décompressions sont très consommateurs parce que c'est des calculs mathématiques très complexes. Et c'est une surconsommation extrêmement importante par rapport à allumer la télévision, par exemple. Et donc, c'est intéressant de voir que le déplacement des modes de consommation de la vidéo en général, en sens large, ne va pas vers une baisse de la consommation, mais au contraire, une forte augmentation.
Alors, le cloud, ça veut dire quoi, les filles, le cloud? C'est quoi le cloud?
C'est là où habite Siri. Demandez Tiber, elle dit qu'il habite dans le cloud.
C'est qui, Siri?
C'est la petite voix électronique qu'on peut avoir sur nos téléphones maintenant, sur nos tablettes, tout ça, qu'on peut leur demander pour téléphoner à quelqu'un, même pour lui parler, juste lui parler. Ça peut être rigolo, des fois, il vous fait des blagues ou ce genre de choses. C'est pas drôle, mais...
Tu veux essayer? Sors ton téléphone, on va discuter avec Siri, on va lui poser des questions sur le cloud.
Tu habites où, Siri?
Où que vous soyez, je m'y trouve.
C'est quoi le cloud?
C'est une jolie masse blanche molotonée qui fait parfois un bruit de fusée.
Bon, et alors ce cloud, il se situe où? Est-ce que vous savez, cette maison de Siri?
De grandes bases d'informations, de stockage, je sais pas vraiment en fait exactement ce que c'est.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur ce cloud?
C'est pas facile comme question. Bah, c'est le nuage. Donc, c'est en fin de compte un certain nombre d'équipements techniques plutôt importants. Hein. Ça peut être des bâtiments très importants comme une espèce d'énorme hangar. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'ordinateurs et qui contiennent les vidéos dont on a parlé, Siri, Amazon, je sais pas, les moteurs de recherche de Google. Alors, c'est pas toujours dans le même bâtiment. Et puis, tous les professionnels qui utilisent de l'informatique et de plus en plus. Pas dans des serveurs, dans les bâtiments de l'entreprise, mais justement dans ces data centers.
Ouais, donc ça n'a rien d'un nuage virtuel en fait.
Ah non, c'est tout à fait terre à terre. On n'a pas encore réussi à les monter dans les nuages. Je pense que c'est pas vraiment l'objectif. Mais c'est l'idée que le traitement, il est plus localisé. Il est quelque part, et ce quelque part, on n'a pas besoin de le connaître. Il est souvent assez difficile de le localiser. Et donc on a imaginé cette image qui, à mon avis, est assez bonne, de dire c'est comme si c'était dans les nuages. C'est au-dessus, c'est ailleurs.
Vous saviez ça? Que c'était des grands entrepôts avec des dizaines de milliers d'ordinateurs, en fait, le cloud?
Pas du tout.
Ça vous étonne?
Ça m'étonne, oui. Non, je n'imaginais pas que c'était un vrai nuage qui volait, qui donnait des informations, tout ça. Donc je ne suis pas étonnée dans le fait que c'est des ordinateurs. Mais effectivement, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être.
Peut-être qu'on peut regarder sur Internet s'il y a dans Google Images des photos de ce que c'est qu'un data center.
Ouais.
Comme ça, vous allez voir. On va taper data center dans Google Images.
Ouais.
On dirait des choses dans les films. Vous savez, quand il faut que les espèces d'espions aillent récupérer des informations, il y en a de grands d'entrepôts comme ça où il y a plein d'ordinateurs et il faut qu'ils déconnectent des trucs.
Voilà, c'est ça.
Dans le 12e arrondissement de Paris, devant un immeuble, tout ce qu'il y a de plus normal, avec des gens qui rentrent et qui sortent avec des poussettes, des enfants, un petit jardin, des petits oiseaux. Et je suis là devant un bâtiment, le bâtiment de la société Acropolis. Et je suis accueillie par Samir Kolelat, qui est le président d'Acropolis. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que cette entreprise?
Alors, nous sommes une entreprise de cloud, dans laquelle nous allons stocker des informations informatiques pour les entreprises et quelques particuliers, et on va leur faire la gestion des services hébergés.
D'accord.
Dans un data center.
Ah voilà, nous sommes devant un data center.
Nous sommes devant un data center.
Mais alors, c'est bizarre, parce que moi je m'attendais à un immense hangar au milieu de la banlieue, etc. Et en fait, on est en plein Paris.
Évidemment, et on est comme les banques, moins on nous voit de l'extérieur, moins on court des risques d'attaque.
Alors allons-y, on va peut-être rentrer.
La sécurité est très importante. Alors pour rentrer, d'abord, on va traverser un premier sas.
Je vous suis.
Avec un badge.
Donc on rentre.
Et dès maintenant, avant de rentrer, nous sommes déjà filmés. Donc, gardez le sourire. Voilà. Là, vous êtes dans l'enceinte du data center. Alors, vous voyez, c'est un couloir de No Man's Land. Il n'y a personne, évidemment. Et les data centers sont alignés ici, dans ce couloir qui fait à peu près une cinquantaine de mètres. Et là, on va se diriger dans le premier data center, dans lequel il y a un cloud de messagerie unifiée, de logiciels applicatifs et d'unités de stockage d'informations informatiques pour ceux qui désirent utiliser ces logiciels ou ces unités de stockage.
Alors, on va un petit peu décrire. Donc, nous sommes dans une grande pièce.
Ici, il y a deux cool corridors. Le cool corridor, c'est un corridor dans lequel il y a de l'air frais qui monte et qui est expulsé pour refroidir les machines que vous voyez d'un côté et de l'autre de ce corridor. Et dès qu'on ouvre, on va sentir le frais qui est à l'intérieur et on va entendre le bruit des machines. Donc, l'air frais passe d'en bas, il va refroidir les machines et il va être expulsé vers l'extérieur.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de refroidir les machines ?
Alors, les machines chauffent parce qu'il y a de l'électricité. Les composants eux-mêmes, comme ce sont des circuits imprimés, chauffent. Il faut les refroidir et les maintenir à température parce que si la température monte beaucoup, eh ben, ça risque de s'enflammer. Et c'est pourquoi les entreprises aujourd'hui viennent chez nous pour éviter aussi d'acheter une climatisation qui est dans la petite salle informatique qu'ils avaient, d'acheter un onduleur. Ici, ils vont accéder à tous ces services sans y investir.
C'est quoi un onduleur ?
Un onduleur, c'est quelque chose qui permet au serveur ou au PC de continuer à tourner pendant une bonne vingtaine de minutes quand l'électricité est coupée.
L'électricité, ici, c'est quelque chose d'extrêmement important, alors ?
Bien sûr, c'est l'élément principal pour la machine. C'est le gasoil de la voiture. L'électricité, aujourd'hui, c'est la source d'énergie qui fait tourner tout ça. Sans électricité, on ne peut pas vivre.
Et alors, est-ce que ça consomme beaucoup d'électricité, un data center comme le vôtre ?
Alors, Caroline, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les data centers, au vu de l'information qu'elles stockent et qu'elles délivrent et des services qu'elles rendent, elles consomment beaucoup moins d'électricité que si chacun avait son ordinateur chez soi.
Mais je veux bien quand même que vous me disiez combien ça consomme d'électricité.
Alors, il faut compter que chaque baie...
Donc une baie, c'est une rangée,
une
c'est quoi
baie, c'est une armoire, comme vous voyez, verticale, dans laquelle il peut y avoir jusqu'à une quarantaine de serveurs. Une baie, ici, elle va consommer du 4,5 kW. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que nos machines, l'air que vous respirez ici, je vous montrerai tout à l'heure le filtre, il est purifié avant d'être injecté dans les data centers pour soustraire toutes les particules, soustraire l'humidité, préchauffer ou pré-refroidir l'air avant de l'injecter.
Donc en fait, pour prendre un bon grand bol d'air, c'est pas la peine d'aller à la montagne, il faut aller dans un data center.
Exactement.
D'accord. Alors, on va peut-être continuer la visite. On referme la double porte. On est dans une salle un peu similaire à la première, sauf que elle est vide.
Et bien là, on vient juste de l'installer parce que le cloud a un taux de croissance de plus de 20% par an. Les entreprises sont en train de faire appel de plus en plus à des services qui sont dans le nuage, notamment la dématérialisation.
Vous me disiez tout à l'heure que finalement, un data center, c'était un peu comme une banque. Pourquoi ?
Ben parce que le prix de l'information aujourd'hui est aussi cher que le prix de l'argent.
C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'on met son argent à la banque plutôt que de le mettre sous son matelas, eh bien, on met ses informations dans un data center plutôt que de le garder dans son ordinateur.
Il vaut mieux parce que les bas de laine aujourd'hui ou l'argent dans les matelas, ça n'existe plus.
Merci. Salon du cloud et du data center. Donc, ce salon regroupe tous les acteurs du stockage de données numériques, qui sont donc des données virtuelles, mais ce salon est très concret, il y a beaucoup de monde. Donc, on va essayer de voir si ces gens sont un petit peu sensibles à la question de l'impact énergétique de l'Internet.
Bonjour, je suis Emmanuel Bourg, le directeur de la société Rentload, qui travaille dans les tests des data centers.
Il y a beaucoup de data centers en France, dans le monde ?
Dans le monde, on estime à ce qu'il y a à peu près plus de 10 000 data centers. En France, des gros data centers, il y en a 150. Aujourd'hui, on est de plus en plus lié à ces infrastructures, puisque les communications mail, les communications audio, les communications visuelles sur YouTube, voire même parfois la télévision aujourd'hui, passent par des serveurs et donc par des data centers.
Oui, donc il y a un besoin absolument énorme de ces data centers, étant donné la consommation qu'on fait aujourd'hui d'Internet et de télécommunications.
Et ce besoin est accru par deux choses. Il est accru par la tendance globale des consommateurs. Les gens aujourd'hui préfèrent utiliser des applicatifs qui sont stockés ailleurs que chez eux. C'est ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire que les gens utilisent à la demande des applicatifs, par exemple une boîte mail, un logiciel, plutôt que l'avoir stocké sur leur serveur ou sur leur ordinateur, vont directement y accéder dans les data centers, par exemple de Microsoft pour Office.
Donc vous êtes en train de m'expliquer que toutes les données qu'on échange tous les jours, sans y réfléchir, le coup de fil à maman, le texto pour dire j'arrive, achète du pain, le mail avec la pièce jointe envoyée à son boss, tout ça, ce sont des données qui vont donc transiter par ces data centers. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en termes d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est très énergivore.
Alors pour parler de données un peu techniques et en termes d'électrique, un data center, c'est souvent plusieurs mégawatts. Alors plusieurs mégawatts, ça veut dire quoi? Ça parle pas souvent aux gens. Un data center, par exemple, de 10 000 mètres carrés, c'est l'équivalent en consommation d'une ville de 50 000 habitants.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Pour avoir une idée, un mégawatt, c'est 1000 kilowatts. 1000 kilowatts, c'est à peu près 1000 habitations. Une habitation peut générer entre 1 et 10 kilowatts en consommation d'énergie d'un particulier.
Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui gèrent des data centers se posent cette question de l'énergie? Est-ce qu'on commence à avoir une prise de conscience de l'aspect environnemental de ça?
Alors, il faut être honnête. Aujourd'hui, si les opérateurs de data centers sont motivés par ces questions, c'est surtout pour des raisons financières. Et donc, ce que cherchent les opérateurs, c'est à réduire, non pas... pour être souvent plus green, mais d'abord pour réduire leurs coûts financiers. Et donc, ils vont investir dans des équipements qui seront moins énergivores, moins consommateurs en énergie.
Il existe aujourd'hui des data centers en France, en Europe ou dans le monde qui fonctionnent avec de l'énergie renouvelable?
Alors, il en existe, en effet. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des data centers, notamment de Google en Belgique, fonctionnent en partie avec des éoliennes. Je sais que dans le nord de l'Europe aussi, beaucoup on type sur pas ce type d'énergie. Mais il faut savoir que c'est jamais un seul type d'alimentation. Les gens ont souvent peur de cette fameuse coupure et donc par les systèmes de redondance. On sait bien que l'énergie éolienne est pas stable dans le temps. Et donc, ils ont toujours quand même au départ une consommation électrique du réseau national. Aujourd'hui, des entreprises, je pense par exemple à Dalkia en France, ont pensé à des systèmes qui permettent de récupérer l'air chaud pour chauffer de l'eau et donc fournir aux usagers des habitations autour du data center de l'eau chaude. Il faut être honnête, ça reste de l'ordre de l'exception aujourd'hui, parce que ce sont des investissements très coûteux, et ça demande une mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les acteurs du data center, mais surtout de la collectivité autour.
C'est pas du vent.
Every satellite up here is watching.
Le magazine de l'environnement.
But I was here from the very start.
Sur RFI.
Trying to find a way to your heart.
Est-ce que toute la pollution qui est générée par Internet, elle vient que de ces data centers, hein?
Donc ça, c'est des points de pollution en termes de points de consommation électrique qui sont très très forts. Hein, si on faisait l'intensité lumineuse, par exemple, en fonction d'eux, il y aurait des tout petits points devant un ordinateur ou un smartphone, et puis il y aurait un énorme point sur un data center. Mais en même temps, les petits points, il n'y en aurait pas qu'un. Il y aurait 200 points de data center, ce qu'on vient de dire, et il y aurait 120 millions en France de points plus ou moins petits, plus tous les points qui permettent de relier ces gros data centers à tous ces terminaux. Puisqu'il y a plein de matériel, de fibres optiques, de fils de cuivre, tout ça c'est alimenté électriquement et tout ça, ça consomme énormément.
Nous sommes au CNRS à Paris.
Frédéric Bordage, greenIT.fr. J'ai une activité de conseil dans le domaine du numérique durable, donc c'est la rencontre entre le numérique et le développement durable. Le discours qu'on entend partout sur Internet et son empreinte environnementale, on l'entend surtout sur l'alimentation en électrique des data centers qui regroupent tous les serveurs du web. Et en fait, on oublie qu'il y a deux autres tiers. Il y a le réseau qui transporte les données et il y a l'internaute au bout du réseau. Et en fait, quand on regarde l'empreinte, qu'on regarde sur le cycle de vie, la fabrication de tout ça, donc les bâtiments, les millions de kilomètres de câbles optiques, de fils, de téléphoniques, etc., les box ADSL, les ordinateurs des internautes, etc., on se rend compte que l'empreinte environnementale globale, les différents impacts, sont surtout concentrés chez l'internaute. Donc, en termes de consommation d'énergie, c'est un tiers chez l'internaute, un tiers au niveau du réseau, un tiers au niveau du data center. Mais si on regarde autre chose que les gaz à effet de serre et l'énergie, c'est essentiellement du côté de l'internaute. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a 200 terminaux connectés du côté des internautes pour un serveur du côté des data centers. Et donc fabriquer 200 équipements, donc 200 smartphones ou 200 ordinateurs, ou fabriquer un serveur, ça va forcément pas avoir les mêmes impacts environnementaux en termes d'épuisement de ressources, en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution diverses et variées.
Et c'est là qu'on parle d'obsolescence programmée, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors en fait, c'est là qu'on peut faire le lien avec l'obsolescence programmée, parce que la clé pour réduire les impacts environnementaux du web, ça va être d'abord de pouvoir réduire les impacts liés à la fabrication des équipements qui permettent d'aller sur le web, et pour réduire ces impacts, il faut allonger la durée de vie, donc lutter contre l'obsolescence programmée. Pour cela, il faut que ces équipements ils soient garantis plus longtemps. Et on a eu la loi consommation qui a été votée il n'y a pas longtemps en France, qui avait un volet neuf qui portait sur l'obsolescence programmée, et où des amendements ont été proposés pour allonger la durée de garantie légale de ces équipements. Ils n'ont pas été votés. On est passé vraiment à côté d'une occasion fabuleuse de donner le pouvoir aux utilisateurs, de leur permettre d'utiliser plus longtemps ces équipements, simplement parce que quand ils tombent en panne, ils vont être réparés. J'ai calculé quelques petits chiffres pour vous donner une idée de l'empreinte du web. C'est quoi l'empreinte du web pour un individu ? Et en fait, on se rend compte que pour un internaute, au niveau annuel, c'est 130 kg d'émissions de gaz à effet de serre, donc d'équivalent CO2. C'est 1400 litres d'eau. Ça, c'est l'empreinte du web, en fait. Ceci dit, effectivement, en covoiturant, en utilisant un site web pour covoiturer, et donc c'est bien le web et Internet, on va avoir un effet positif de ces technologies. Donc on a un impact direct négatif pour l'environnement. C'est la fabrication des serveurs, des smartphones ou des ordinateurs qui nous auront permis d'aller sur le site web de covoiturage. Mais on va avoir un impact indirect très bénéfique qui va être de remplir les voitures, par exemple. On parle peu de cette problématique parce qu'en fait, on utilise des mots-clés qui sont mal associés comme virtuel, comme immatériel, comme dématérialisation quand on parle du numérique. Alors qu'en fait, quand vous dématérialisez un document papier, qu'il vous le mettez sous la forme d'octets, ces octets sont stockés sur des disques durs, manipulés à travers des claviers, donc on dématérialise rien du tout.
Je dois avouer que je n'y ai jamais vraiment pensé.
Est-ce que c'est des choses dont vous aviez conscience, hein ?
Pas du tout. Du tout. Mais je pense que c'est vraiment pas un truc dont les jeunes, en tout cas, de notre âge, se soucient vraiment. On se dit pas, attends, je vais aller regarder où sont stockées mes informations pour voir comment ça marche. Si tu suffis d'un petit truc pour que ça consomme moins, pollue moins, je le ferai, je pense. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression qu'on parle de solutions évidentes.
Il s'agit de vous et non de moi.
Lumila a raison de s'interroger et des solutions. Françoise Berthoux, ingénieure de recherche au CNRS et écologue du numérique, nous en propose quelques-unes.
Alors, il y a plein de petites choses que les utilisateurs peuvent faire et qui ne font pas essentiellement par méconnaissance en fait. Par exemple, moi dans mon environnement, je vois beaucoup de personnes quand elles veulent aller sur un site web, même un site très connu, hein, même leur propre entreprise, au lieu de taper le nom du site web dans la petite fenêtre qui permet de le faire, elles le tapent dans Google. Et du coup, ça fait une requête à Google, etc. Donc ça, typiquement, ça surconsomme des ressources complètement inutilement. Et moi, quand je le dis autour de moi, la plupart des gens me disent « Ah bon, mais je ne savais pas ». Et donc ça, c'est typiquement un petit truc. Bon, ça va pas révolutionner le monde, mais ça commence par des petites choses comme ça. Après, l'autre chose qui me semble évidente, c'est de réduire les données qu'ils ont sur le cloud, sur Internet. Alors, je vais utiliser une image pour ça, hein. Quand vous êtes chez vous, vous utilisez des tas de ressources, vous avez des tas d'activités, puis vous remplissez votre poubelle au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que vous n'utilisez plus, ou alors il y a des choses qui sont stockées dans le garage ou dans le grenier, et puis à un moment donné tous les 5 ans, vous vous dites bon là quand même, là faut que je sorte tout ça, là c'est plus possible. Bon. Et pourquoi vous vous dites ça ? Parce que vous voyez la limitation des murs, quoi, donc ça fixe des limites. Et le truc sur Internet, c'est qu'on voit pas ces limites, parce qu'on a l'impression que c'est complètement infini. En plus, on a sans arrêt des messages commerciaux qui nous laissent croire que c'est gratuit, illimité, etc. Et donc, un truc que peuvent faire les utilisateurs, et ben c'est assez bête, hein, mais c'est de jeter réellement à la poubelle les choses qu'ils n'utilisent plus, hein, les gigas et les gigas de données qu'on a tous, hein, parce que maintenant, la moindre photo, ça prend une place phénoménale, et puis on les oublie parce qu'on pense à autre chose, et puis on n'a pas les limites de notre grenier qui nous disent non, là, il faut arrêter.
Ou de les stocker sur un disque dur externe qui reste pas branché et qu'on va juste brancher le jour où on aura besoin de récupérer ces données-là, non ?
Oui, complètement, parce qu'effectivement, le disque dur externe, contrairement au cloud, il ne consomme pas quand on ne le branche pas.
Il y a quand même en partie des prises de conscience, et puis il y a une évolution technologique naturelle presque, hein, qui est que les processeurs sont de plus en plus gravés, hein, donc la manière d'écrire dessus est de plus en plus fine, et du coup, par voie de conséquence, la performance est meilleure. Et la consommation est très fortement diminuée. Si on avait un smartphone avec les technologies de gravure qu'on avait au temps des premiers mobiles, il faudrait une batterie de voiture avec, quoi. C'est une image. Mais je pense que d'ailleurs, sans doute que mon image n'est pas bonne, c'est plus que ça. Donc il y a des gains considérables qui ont été faits. Et ça continue, c'est pas fini. Et donc, on va y arriver.
Reportage de Caroline Langlois réalisé par François Porcheron. Demain, nous irons en Suède où l'État encourage l'agriculture biologique et le respect du bien-être animal, même dans les élevages intensifs. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure. Internet, oh ouais.